On ne voit pas nettement pourquoi Stendhal ne s'est pas donné au théâtre, auquel tout le destinait. On peut rêver sur ce vide si l'on a ce loisir. C'est ce qu'écrit Valérie dans son bel essai sur Stendhal. Il est difficile de ne pas souscrire à son postulat. Stendhal était né pour le théâtre. Dans la vie de Henri Brulard, son autobiographie, c'est d'ailleurs une des seules certitudes identitaires qu'il se reconnaisse au milieu d'un océan de doutes. « Très jeune, déclare-t-il, ma vocation fut décidée, vivre à Paris en faisant des comédies comme Molière et vivre avec une actrice. » Et cette vocation précoce, on le voit, qui est à la fois littéraire et existentielle, ne l'a plus lâchée. À l'origine donc de Stendhal, et entendons le pseudonyme comme le symbole d'une vie-œuvre, où la vie fait partie de l'œuvre, il y a le théâtre. Dans l'abondant péritexte privé, journal, correspondance, notes marginales, innombrables sont les déclarations qui font de ce goût du théâtre une sorte de gène dominant qui engage toute sa personne, comme dans cette formule qui n'est pas dans l'exemplier que je lis. Il écrit, donc on est dans, c'est une note du journal, « J'ai eu ce bonheur d'être fixe de bonheur. Dès ma plus tendre enfance, d'aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai voulu être poète comique, c'est-à-dire dramaturge. Toutes les opérations de mon corps, de ma tête, de mon âme ont tendu là. » Tandis qu'à l'autre bout de la vie, quelques jours à peine avant son décès, en 1842, il consigne dans son journal cette note laconique où il réaffirme en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler son pacte vocationnel, « Ton affaire est de faire des comédies sans fin ». Né pour le théâtre, donc, assurément, on souscrit encore une fois au postulat de Valérie, mais on pourrait dire également « né par le théâtre ». Car c'est aussi par la fréquentation assidue du théâtre, de ses spectacles, de ses acteurs et surtout de ses actrices qu'Henri Bell, à défaut de devenir un nouveau Molière comme il le souhaitait et de s'illustrer dans ce qu'il appelle dans son jargon à lui l'art de comiquer, eh bien c'est ainsi qu'il est devenu Stendhal. C'est par le théâtre qu'il rentre en littérature avec une comédie en prose écrite à l'âge de 10 ans. Premier pas donc vers l'écriture dramaturgique qu'il s'acharnera à pratiquer toute sa vie. Bon, comme il l'écrit dans ses lettres à ses amis, je prends une citation parmi mille autres. « Depuis qu'à 12 ans j'ai lu des touches, je me suis destiné to make comedies ». Aussi est-il sans doute moins juste de dire, et je contredirai sur ce point la clairvoyance de Valérie, que Stendhal ne s'est pas donné au théâtre, car s'il est une passion à laquelle il s'est, qu'il a tenu de façon continue et à laquelle il s'est adonné sans réserve, c'est bien celle du théâtre. Mais tel qu'il l'a vécu, le théâtre ne se réduit pas à la rédaction laborieuse de pièces jamais achevées, même si on ne peut compter pour rien ces centaines de pages d'ébauches, d'essais et de comédies jamais terminées. Aucune, en effet, n'est arrivée à terme et à publication. Pourtant, cette non-œuvre théâtrale qui se dessine en creux dans la foisonnante production d'un écrivain un peu polygraphe ne peut être pensée en termes de vide ou de manque. Bien au contraire, le théâtre. Et il faut inclure dans ce terme générique le théâtre lyrique, et surtout l'opéra bouffe, dont il fut un amateur passionné, commande chez Stendhal une expérience plurielle, à la fois esthétique, poétique, mais aussi sociologique, on le verra, ontologique, il naît à lui-même à travers le théâtre, et aussi érotique. Il fut d'abord, si je mets en perspective ces différentes expériences, tout commence par la lecture, il fut d'abord un lecteur insatiable de tout le répertoire classique et moderne. C'est le temps de ce que Musset appellerait les spectacles dans un fauteuil, et pour lui, de la rédaction de fiches et d'extraits pour progresser dans l'art de la comédie où il veut s'illustrer. Très vite, il est devenu un spectateur boulimique, capable, comme il l'écrit dans son journal, de faire 10 lieues à pied par la crotte, la chose qu'il déteste le plus au monde, pour assister à une représentation de Don Juan bien joué ou d'aller entendre 100 fois de suite à l'Odéon chanter Madame Bary. À ces deux postures fondatrices s'adjoint celle du critique. L'assistance au spectacle est chez Stendhal, le premier geste d'un acte qui se prolonge ensuite dans la rédaction de compte-rendu analytique. Et cette critique est d'abord une critique pour soi, hein, pour progresser dans l'art dramatique, dans l'art de la création dramatique, va trouver très vite son prolongement dans la critique journalistique que Stendhal va pratiquer, tout comme Gautier avant lui, de 1820 à 1830, notamment pour les journaux anglais, où il fait, entre autres, la chronique de la vie théâtrale parisienne. Amoureux du théâtre, il a aussi voulu le réinventer, et on connaît bien ces deux pamphlets, Racine et Shakespeare, qui vont faire entendre les premiers accents d'une révolution dramatique en marche, qu'il aura, il est vrai, quelques mal à mener dans ses propres œuvres, qui sont peu représentatives des innovations qu'il attend dans ce champ. Enfin, Stendhal a trouvé aussi, j'en dirais un mot, beaucoup de plaisir dans une autre pratique du théâtre, en s'initiant à l'art de la déclamation, hein, et en se rêvant pendant un bref moment, que j'évoquerai tout à l'heure, une carrière d'acteur, hein, vivant avec des actrices forcément belles et mélancoliques. Machine à rêve, le théâtre fut pour lui un adjuvant essentiel dans ce qu'il appelle sa chasse au bonheur, mais aussi un extraordinaire outil pour questionner et penser la littérature. Car le théâtre, au XIXe siècle plus que jamais, c'est de la littérature en acte, pourrait-on dire. Alors, dans cette expérience théâtrale multiple, vous le voyez, extrêmement foisonnante et à laquelle on s'est beaucoup intéressé, il y a un numéro récent de l'année stendhalienne qui porte sur Stendhal et le théâtre. C'est à Stendhal spectateur que je m'intéresserai en revisitant quelques-uns des témoignages nombreux qu'il a laissés de ce qu'il appelle son hérétisme pour le théâtre, une passion dévorante et pathologique presque. Alors, j'évoquerai d'abord quelques-uns des récits de spectacles fondateurs ou donnés comme tels dans la vie de Henri Brûlart, et je me focaliserai dans un second temps sur le journal de jeunesse où l'apprenti dramaturge consigne ses multiples expériences théâtrales. Alors d'abord, les révélations, la révélation, l'illumination du théâtre. Dans un chapitre de la vie d'Henri Brûlart intitulé « Petits souvenirs de ma première enfance », il sacrifie au topos obligé du premier souvenir, hein, qui balise tout récit autobiographique. Petit, ce souvenir-là est néanmoins lourd d'investissements symboliques. Il rapporte le premier spectacle auquel l'enfant Bell, hein, et je parlerai maintenant plutôt de Henri Bell, assista à l'âge de 7 ans contre l'avis paternel. L'épisode est rapporté dans un récit bref, dramatisé et focalisé dans le regard singulier du narrateur enfant, comme d'ailleurs pour la plupart des récits de souvenirs dans la vie de Henri Brûlart. Un soir, malgré tout le monde, mais quels étaient les opposants avant 1790, il me mena au spectacle, c'est son oncle. On jouait le Cid. Mais cet enfant est fou, dit mon excellent grand-père à mon retour. Son amour pour les lettres l'avait empêché de s'opposer bien sérieusement à ma course au spectacle. Je vis donc jouer le Cid, mais ce me semble en habit de satin bleu de ciel avec des souliers de satin blanc. En disant l'estance ou ailleurs, en maniant son épée avec trop de feu, le Cid se blessa à l'œil droit. Un peu de plus, dit-on autour de moi, il se crevait l'œil. J'étais aux premières loges, la seconde à droite. Une autre fois, mon oncle eut la complaisance de me mener à la caravane du Caire. Les chameaux me firent absolument perdre la tête. L'infante de Zamora, ou un poltron, ou bien un cuisinier, chantait une ariette, portant un casque avec un rat pour cimier, me charma jusqu'au délire. C'était pour moi le vrai comique. C'est ainsi que Stendhal met en scène a posteriori ce premier contact avec le théâtre où sa passion s'origine. Aussi lacunaire soit-il, ce récit, où le moi écrit discrètement ses légendes, dessine en filigrane les paramètres majeurs de la relation que l'écrivain a entretenu avec le spectacle vivant. Dans cet épisode initial et initiatique, le théâtre ouvre subitement une palette d'émotions, de valeurs esthétiques et morales qui n'ont pas cours dans le microcosme familial. La beauté, l'héroïsme, ce que Stendhal appellera l'espagnolisme, la sensualité et surtout la fantaisie, le rire, hein, dans une famille où on s'ennuie. Le plaisir est plus intense, bien sûr, qu'il est interdit. C'est contre le père et son matérialisme obtus que l'enfant et l'adulte, après lui, va se vouer au théâtre comme à un culte libératoire, parce que antifamilial. Mais en dehors de tout scénario oedipien, le théâtre est vécu par l'enfant comme l'opérateur magique d'un réenchantement du monde, ce qu'il restera toute sa vie pour l'adulte. Comme tous les autres arts visuels et la peinture, qu'il met souvent en regard. Le théâtre pour Stendhal, c'est le monde vu dans un prisme magique. Il a d'ailleurs une métaphore optique pour dire ce pouvoir de transfiguration. Pour tout bonheur, Dominique, c'est un de ses pseudonymes, a une petite lorgnette d'un pouce de diamètre ouvrant dans un monde sublime. La bonne musique rend beaucoup plus claire la vie de ce monde. Le théâtre, donc, cette métaphore le rappelle, s'offre à Stendhal, c'est presque une évidence, mais il faut le rappeler, comme un extraordinaire instrument d'optique. Non pas parce qu'on y assiste passivement à un spectacle, mais parce qu'on y voit mieux et autrement. Alors cela se manifeste dans tous ses récits et dans celui-ci par l'émergence de détails singuliers que l'œil du spectateur stendhalien isole de l'ensemble et sur lesquels il fixe son regard. Les souliers de satin du Cid, le rat en guise de cimier, ou encore dans le récit suivant, qui est le récit d'un autre spectacle fondateur, la dent qu'il manque à l'actrice. C'est toujours le détail incongru. Il s'agit du souvenir mémorable parmi tous d'un spectacle qu'il a vu en Italie, à Novare, en 1800, alors qu'il suit les troupes françaises. Il reçoit la révélation de la musique italienne, véritable illumination fondatrice qui décide d'une autre clause de son pacte et de sa vocation, vivre en Italie et entendre cette musique. Bon, je lis rapidement la deuxième partie. Enfin, j'allais au spectacle. On donnait le Matrimonio Segreto de Cimarosa. L'actrice qui jouait Caroline avait une dent de moins sur le devant. Voilà tout ce qui me reste d'un bonheur divin. Je mentirais et je ferais du roman si j'entreprenais de le détailler. Comme si ce signe incongru qui vient en place d'une émotion indicible était la seule façon de suggérer a posteriori la magie sidérante du spectacle par lequel le trivial se transcende en sublime. On connaît la méfiance de Stendhal à l'égard du pouvoir falsificateur des mots et de la tentation romanesque au cœur de tout récit. Et donc, d'où le laconisme prudent de ces récits de spectacle qui l'ont le plus touché et où se noue à la fois son histoire intime et aussi la jeunesse de son esthétique. Alors, ce que nous disent ces deux micro-récits, c'est que le spectacle est pour Stendhal aussi le consentement à une illusion. Dans les récits évoqués, la dent qui manque à l'actrice, les souliers de satin un peu incongrus du Cid, sur lesquels le regard s'accroche, sont aussi les signes par lesquels l'illusion théâtrale se rappelle au spectateur, mais sans pour autant briser l'enchantement. Stendhal, spectateur, n'a jamais amorcé la moindre théorie de la distanciation, mais il a toujours posé le principe du théâtre comme une illusion ostentatoire, ce qu'il appelle, avec une formule qui fera fortune, un beau mensonge. Ce mensonge-là, cependant, et c'est tout son pouvoir, peut avoir de fulgurants effets de vérité, mais n'est pas à la portée de tous les dramaturges, ni de toutes les scènes, ni de tous les acteurs. Stendhal a ses salles mythiques, ses stars, ses œuvres fétiches. On va les voir, la Scala, Mademoiselle du Quesnoy, la Pasta, le mariage de Figaro. À cet égard, la Scala de Milan s'offre comme le paradigme même de Stendhal spectateur. Ce théâtre est un miroir concentrique où convergent ses passions, la musique, la littérature, mais une certaine sociabilité joyeusement érotisée. Cette salle qui fut le centre de son monde imaginaire, il la découvre aussi à son arrivée à Milan en 1800 et c'est un autre éblouissement qu'il évoque ainsi dans sa lettre à sa sœur. « Je suis allée au spectacle qui était le premier du carnaval. Tu ne peux te former l'idée de la beauté des décorations et du luxe des costumes. L'illusion est complète dans une salle comme celle de Milan. Imagine-toi la place Grenette, c'est où il habite à Grenoble, couverte, et tous les balcons avec des jalousies de taffetas de toutes les couleurs. Les plus petites loges sont comme le cabinet dans lequel je couchais à Grenoble. Chacun a dans la sienne des bougies allumées, une table, des cartes, et ordinairement on fait venir des rafraîchissements pour les dames. » Donc, outre le bonheur des yeux et des oreilles, la Scala apporte et comble chez Stendhal le goût des sociabilités. Il écrit dans Rome, Naples et Florence en 1817 que le théâtre de la Scala est le salon de la ville. Il n'y a de société que là. Ce théâtre, donc, réalise l'idéal de vie heureuse que Stendhal a toujours rêvé sous la forme d'un salon de dilettantes où hommes et femmes, également passionnés d'art et de théâtre, sont occupés à des conversations légères. Et à cet égard, la Scala n'est pas seulement un théâtre, mais un art de vivre. Comme il écrit à sa sœur, le Milanais, comme il l'écrit à sa sœur encore dans une autre lettre en 1814, ne vit que pour deux choses, faire l'amour, aller au théâtre. Et pour 8 sous, je cite, il s'amuse le bec en l'air devant des choses superbes, depuis 7h, un quart jusqu'à minuit et demi. La révélation de la Scala mène donc à une conversion. Stendhal sera milanaise. À toutes les époques marquantes de sa jeunesse symbolique, et j'arrête là l'éventail de ce qu'on trouve dans la vie de Henri Brulard, il y a le théâtre. Le théâtre qui fut pour Stendhal un chemin royal dans sa chasse au bonheur, mais qui fut aussi le lieu d'apprentissage de l'écrivain. Alors, si la vie de Henri Brulard écrit la légende a posteriori, le journal va saisir en temps réel, et je m'arrêterai sur ce journal maintenant, l'auto-formation d'un jeune homme qui n'est pas encore Stendhal, mais encore Henri Bell, et qui a décidé de rentrer dans le monde par la porte du théâtre et d'y acquérir la gloire en devenant un nouveau Molière. Alors, à côté des légendes, même s'il s'en défend, il raconte quand même la légende de la vocation théâtrale de l'enfant qu'il était. Les comptes rendus de spectacles que l'on va trouver dans le journal sont beaucoup plus pragmatiques et factuels. Et ces notes foisonnantes, pendant de 1802, on peut dire, à 1806, le journal est constitué essentiellement de notes de lecture, de pièces de théâtre et de notes de spectacle. Ces notes attestent de la fréquentation quasi quotidienne de spectacles d'ordre très divers, tragédies, comédies, mais aussi opéra bouffe. S'y dessine la géographie théâtrale avec les lieux phares de l'expérience stendhalienne, le théâtre français, bien sûr, qu'il fréquente assidûment de 1802 à 1806, mais aussi beaucoup le théâtre italien, inauguré à Paris en 1801. Et puis, bien sûr, pour la période un peu plus tardive milanaise, de 1814 à 1821, la Scala, qui est, dit-il, le premier théâtre du monde. Alors, dans ces années d'apprentissage, quand Stendhal se rêve comic bard, c'est aussi, il parle toujours dans son journal avec un jargon franco-anglais. Le théâtre est à la fois un terrain de jeu et un terrain d'apprentissage. Voir, commenter, analyser des pièces relève du vaste programme d'auto-formation qu'il s'est donné pour connaître les passions humaines et s'initier à l'art de les mettre en scène. Philippe Berthier parle à propos de cette période d'une véritable propédeutique théâtrale, et c'est vrai que cette propédeutique va durer de nombreuses années. Alors, comment se passe une journée d'Henri Bell? Eh bien, dans ces années 1804, sa vie intellectuelle, sociale et sentimentale s'organise tout entière autour de la scène théâtrale. Après avoir peiné dans la solitude sur quelques comédies en cours et étudié les poétiques qui sont censées lui enseigner l'art de la comédie, et nombreuses poétiques à l'époque se proposent à lui, il s'étourdit de déclamations au cours d'art dramatique de l'acteur du Gazon. Là, non seulement il rencontre les acteurs et les actrices, mais il devient Cinna Alceste et se rêve une carrière de grand tragédien. Dans son journal, il rapporte ses performances d'acteurs et les effets qu'elles ont suscités. 24 décembre 1802, veille de Noël, je lus Cinna, je n'ai jamais vu triomphe pareil, l'on m'applaudit tous les divers. Je jurais en rentrant de déclamer supérieurement dans un an. Depuis lors, j'ai marché de succès en succès. Je joue beaucoup de rôles, mais je ne suis content de moi dans aucun. Mes meilleurs, quand je suis animé, sont Orès, Ladislas, Cinna, Radamis, le Cid, Nérestan, Antiochus, Torres de Tauride, etc., etc. La déclamation est une autre façon pour lui de faire vibrer la musique de théâtre, du théâtre et d'en jouir, comme il le dit dans cette note du journal. Je répétais avec enthousiasme, ravissement cet autre passage d'Othello. C'est là le destin des hommes généreux et des grands caractères. J'avais une jouissance indicible en prononçant ce mot généreux. Le soir, il s'enivre du sublime de Bajazet ou d'Andromaque. À l'époque, il n'a pas encore détrôné Racine par Shakespeare. Même si ce dernier est déjà un auteur phare, il ne le verra jouer que lors de son premier séjour en Angleterre en 1817. Alors, au plaisir intense qu'il tire de ses spectacles, et on est donc dans les premières années du siècle, le répertoire théâtral est essentiellement un répertoire classique et néoclassique. On est avant la période romantique que Gautier évoquera, et bien évidemment avant aussi les vaudevilles et le théâtre un peu industriel qui viendra par la suite. Alors, au plaisir intense qu'il tire des spectacles et dont il cherche, à travers lesquels il cherche des modèles d'écriture, s'adjoignent les satisfactions plus mondaines de la fréquentation des acteurs. Et ça, c'est indissociable du spectacle, cette excitante sociabilité avec les grands noms du temps, qui sont les stars du temps quand même. Je lirai une partie de l'exemple 6 qui rapporte une soirée de 1804. Bajazet, les deux frères, il y a toujours deux pièces au programme. Jamais Mademoiselle Duquesnoy ne m'a paru si belle que dans Roxane aujourd'hui, et jamais tragédie ne m'a peut-être si constamment intéressée que Bajazet aujourd'hui. Tout concourait à mon illusion. Mon travail tente à augmenter la sensibilité. Alors, ensuite, des commentaires sur les acteurs. Saint-Prix, toujours bien, quelquefois beau, dans Acomate. Il n'y a que Madame Talma qui a été détestable avec son chant lamentable dans Athalide. Mademoiselle Duquesnoy au-dessus de tout éloge. Je suis allée la voir après la représentation. Elle m'a reçue. Il la courtise, mais ça ne marche pas très fort. Elle m'a reçue toujours avec ce même naturel sans compliment. Chazé, qui est un auteur dramatique, est venu. Il est joli homme. Il a paru surpris, je crois, de l'air naturel et point troublé que j'avais. Nous avons parlé comédie et tragédie. Lui faisait rire, avait de l'esprit. Moi, j'ai dit quelques pensées justes. En attendant Mademoiselle Duquesnoy, j'ai vu Talma dans le passage, de ma taille. Il avait un habit bleu, culotte et bas noirs. Il parlait au portier du théâtre. Il a la même voix qu'à la scène. Sa vue m'a fait impression. Il avait l'air tragique. J'ai pensé que je maniais la gloire. Après tant d'illusions, de connaissances et d'amitié avec les grands hommes, voilà enfin un peu de réalité. J'espère que dans un an, je serai l'amie de Mademoiselle Duquesnoy et de lui, par les Two Men. Two Men, c'est le nom anglais, c'est sa comédie Les deux hommes qu'il traîne, qu'il va traîner toute sa vie sans jamais la terminer. J'ai bien admiré Racine ce soir. Il a une vérité élégante qui charme. Ce n'est pas le dessin de Michel-Ange, c'est la fraîcheur de Rubens. J'avais mille idées ce soir qui, me semble, auraient fait un bon commentaire. Alors, il me semble que ce récit met bien en perspective les différentes expériences dont le théâtre est alors la matrice. Bon, pour le dramaturge débutant, elle est bien sûr une école d'art dramatique, mais elle est surtout aussi, une école de réflexion sur la dramaturgie classique. Et Stendhal, dans ses carnets de travail, que constituent en quelque sorte ses journaux et sa correspondance, va dessiner les linéaments d'une poétique de l'écriture dramatique qui ne le mènera pas à la production d'œuvres dramatiques importantes, mais qui sera sans doute, c'est un autre chapitre, déterminante dans sa future carrière de romancier. On sait combien le modèle de l'écriture théâtrale est prégnant dans ses romans. Alors, paradoxalement, donc, celui qui va devenir le chantre du théâtre romantique élabore une poétique qui est à ce moment-là toute classique. Stendhal voit d'abord dans la comédie et la tragédie la peinture de caractère. Et c'est à cette aune qu'il va juger les pièces. Celle de Racine le rebute souvent par la fausseté des caractères. C'est le cas, par exemple, d'Iphigénie, dont il fait plusieurs comptes rendus très négatifs. « Je sors d'Iphigénie en Olyde. Aucun vers de cette tragédie n'est allé à mon âme. Cette tragédie doit plaire infiniment aux vulgaires. Tous les personnages en sont médiocres. » Un an plus tard, il revoit la pièce. On donnait Iphigénie, qui décidément est la pièce du monde après les mauvais drames qui m'ennuient le plus. Les personnages n'ont que de la vanité, sentiment avec lequel on compte, mais avec lequel on ne sympathise pas. À l'inverse, il salue la vérité des caractères de Goldoni et surtout de Molière. Même s'il n'apprécie pas son comique bourgeois, il faut se souvenir qu'il voulait devenir un nouveau Molière, c'est sur ses pas qu'il veut marcher. Les deux hommes sont une sorte de réécriture du Tartuffe. Rien n'est rassurant pour moi que Tartuffe. Méditer cette pièce, elle me donnera de la hardiesse pour The Two Men. Comment a joué Orgon avec un grand naturel qui, à mes yeux, le met au-dessus de Grand Ménil? Ce sont des acteurs du temps. Fleury joue très bien Tartuffe. C'est un acteur délicieux. On sent que sa poitrine est faible. Une fois, il est obligé de crier. Du reste, il a donné au rôle la vraie couleur. Il l'a joué en satire. La scène d'Orgon, Marianne et Dorine au deuxième acte a été supérieurement jouée. Il me semble qu'on peut faire une brouille de véritable amour après la scène du deuxième acte de Tartuffe où la vanité entre pour beaucoup plus que l'amour. On voit à ce genre de notes que les pièces qu'il voit sont aussi une sorte de matrice pour les comédies qu'il est en train d'écrire. Et il est toujours dans une stratégie de réécriture. Donc, en général, les comptes rendus critiques portent beaucoup sur le jeu des acteurs, hein, et sur leur façon dont ils mettent à l'épreuve, on pourrait dire, la vérité de la pièce. Hein. Même un bon acteur avec une pièce fausse ne parvient à rien. En revanche, un acteur comme Talma, qui est le grand acteur du moment, à qui Stendhal reproche parfois sa déclamation emphatique, peut, à ces moments de grâce, et ils sont nombreux, magnifier la profondeur de la pièce quand elle en a. C'est le cas pour Rodogune, qui est une des pièces phares de Stendhal. Nous sortons Tencin, c'est un ami et moi, de Rodogune. Nous sommes sortis après Rodogune pour ne pas affaiblir l'impression que nous avions reçue. Ils n'ont pas regardé la deuxième pièce. Talma a été sublime. Je ne l'avais pas vu si bien jouer depuis Andromaque. Il a supérieurement rendu tout le suave de l'amitié. Il a débuté avec un naturel parfait et n'en est pas sorti dans les quatre derniers actes. Il a rendu supérieurement l'anéantissement de la douleur. Il manque à ce grand acteur quelquefois des idées, quelquefois du naturel. Alors, le spectacle, on le voit, est pourvoyeur d'impressions mêlées. À la fois réflexion poétique, analyse dramaturgique et aussi émotion esthétique. Hein. Tout à la fois spectateur et dramaturge en puissance, Bell tire profit de ce dédoublement en étudiant sur lui-même les effets dramatiques des pièces vues et en ébauchant en quelque sorte une esthétique de la réception, hein, dont le romancier d'ailleurs se souviendra par la suite. Car une autre leçon essentielle reçue à cette école du théâtre, et je prolonge un peu ce qu'a dit Julie à propos de Gautier, c'est la connaissance du public, hein, qu'il étudie in vivo, jour après jour. Et bien sûr, ces observations portent un témoignage intéressant sur les pratiques du temps, mais ils attestent aussi du souci de l'écrivain Stendhal de circonscrire le public auquel il veut s'adresser. Ce que suggère main compte rendu des représentations, comme dans l'exemple où il voit que le public siffle et très tumultueux à l'égard d'une pièce très mauvaise, et il dit c'est ce public-là, hein, que je veux. J'ai trouvé le public que je désirais for the two men. Je ne dois jamais sacrifier l'énergie de la passion à je ne sais quel bon temps. Saisissant la dimension sociale du théâtre qui l'intéresse beaucoup, Stendhal, à travers ses observations, qu'il va poursuivre de façon plus professionnelle, je dirais, durant toute la décennie 1820-1830, où il est chroniqueur pour des journaux anglais, pose en quelque sorte les prolégomènes d'une sociologie du théâtre, hein, qui le mènera plus tard, d'ailleurs, à distinguer les différents publics européens. Et à opposer, c'est ce qu'il fait dans La vie de Rossini, hein, un ouvrage qui paraît en 23, à opposer, par exemple, le public français et le public italien. Le public italien étant l'archipublic, hein, le public qui sait sentir sans vanité, sans pose, sans affectation, comme le font en général les Français. Sa fréquentation assidue des théâtres le mènera quelques années plus tard, c'est une transition vers Gautier, à constater que c'est le titre d'un article qu'il rédige en 1836, que la comédie est impossible en 1836. Hein, c'est un article qu'il va publier dans la Revue de Paris, où il prend acte de la naissance d'un nouveau public démocratique, celui auquel Gautier fait référence quelques années plus tard, et qui n'est plus, dit-il, susceptible d'être réceptif aux subtilités de la comédie classique. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il va troquer la carrière de dramaturge pour celle de romancier, hein, même si le théâtre restera toute sa vie une passion, je dirais, idiosyncrasique, hein, qui définit tout son être. Alors, je terminerai sur quelques considérations sur, effectivement, ces deux voies d'accès au théâtre, la voie d'apprentissage et puis la voie plus intime, personnelle, de révélation, finalement, d'un univers magique qui est celui du théâtre. Donc aussi essentielle fut-elle pour sa carrière d'écrivain, la propédeutique si volontairement entretenue pendant sa jeunesse a sans doute appris à Stendhal bien d'autres choses que ce qu'il appelle l'art de comiquer, hein, l'art d'être dramaturge comique, qu'il ne parviendra jamais à mettre en pratique. Si on se reporte du côté des autres textes intimes, comme les souvenirs d'égotisme, hein, qui, vous le savez, ni les souvenirs d'égotisme ni le Brûlard n'ont été publiés de son vivant, il fait cet aveu, ce sont des textes pour lui-même d'abord, il fait cet aveu significatif. Les plus doux moments de ma vie, sans comparaison, se sont passés dans des salles de spectacle. Le spectacle, et avant tout le spectacle musical, hein, la voix, hein, a été pour lui une sorte de maïeutique, lui révélant la formule de son être et l'initiant à l'art suprême vers lequel tendent tous les autres arts, ce que Stendhal appelle en italien l'arte di godere. Et s'il utilise l'italien pour évoquer cet art de jouir de soi et de la vie, dont il a fait la leçon essentielle de ce qu'il appellera, vous savez, le bellisme, c'est-à-dire une espèce de culture de soi, c'est parce que c'est le milanaise, hein, en lui qui parle, le même qui rédigera, vous connaissez sa fameuse épitaphe, hein, dans les souvenirs d'écotisme, il prévoit l'épitaphe qu'il veut sur sa tombe, et il l'écrit en italien, Errico Bell, Milanese, visse, scrisse, amo, et où il réaffirme son adoration perpétuelle pour sa Sainte Trinité, Cimarosa, Mozart, Shakespeare. C'est donc la Scala qui est le lieu topique de ce qu'on pourrait appeler, avec un mot un peu pompeux, son eudémonisme, sa quête du bonheur, qu'il appelle, lui, la chasse au bonheur. Et c'est à la Scala qu'il fut initié à cet art. Ce théâtre eut une grande influence sur mon caractère. Si jamais je m'amuse à écrire comme quoi mon caractère a été formé par les événements de ma jeunesse, le théâtre de la Scala sera au premier rang. Quand j'y entrai, un peu d'émotion de plus m'aurait fait trouver mal et fondre en larmes. C'est donc l'histoire de cette initiation au bonheur qu'il faudrait décrire en déployant tout le kaléidoscope narratif, hein, de tous ces récits de spectateurs que n'a cessé de rédiger Stendhal. C'est bien sûr une tâche immense que je n'entreprendrai pas ici, que je n'ai pas voulu entreprendre, simplement poser quelques jalons. Et pour poser un dernier regard sur les, pour reprendre le titre de notre colloque, sur les modèles d'expérience que Stendhal a tirés de sa fréquentation des spectacles, je dirais d'abord un peu platement qu'ils sont contradictoires et complémentaires, selon l'angle de vue qu'on prendra. D'un côté, cette laborieuse pédagogie de l'art dramatique que Stendhal a cherché à élaborer à partir de son expérience de spectateur, et qui a incontestablement appris au romancier qu'il deviendra des éléments essentiels de sa poétique, notamment dans la construction du personnage, dans la dramaturgie de l'intrigue, et dans une certaine économie du récit, hein, qui va vite et qui montre plutôt qu'il ne disserte. De l'autre côté de son expérience de spectateur, la fulgurance de l'enthousiasme qui le saisit dès les premiers spectacles vus et qui ne le quittera plus. Finalement, le vrai, le seul bonheur inaltérable et constant qu'il a connu, c'est celui dont il a eu, en tout cas c'est ce qu'il écrit, c'est celui dont il a eu un premier goût, jeune homme, quand il découvre une autre actrice, Mademoiselle Kubli, dans Claudine de Florian, qui est une comédie sentimentale de Pigault Lebrun, et qui le met littéralement en transe. Pendant plusieurs mois, cet ouvrage, souvent redemandé par le public, me donna les plaisirs les plus vifs, et je dirais les plus vifs que m'aient donné les ouvrages d'art. Et il ajoute, c'était la sensation de volupté la plus forte et allant presque jusqu'à la douleur, hein, qu'il ait jamais éprouvée. Donc le spectacle fut aussi, peut-être surtout, hein, pour Stendhal, une école de volupté qui lui apprit qu'il vaut mieux sentir que juger, jouir que disserter. Pour le dramaturge appliqué des débuts, il y a dans ce simple constat une excitante bouffée d'oxygène, un délicieux coup de fouet que lui donne Shakespeare. Mon admiration pour Shakespeare, c'est ce qu'il écrit donc dans une note des début des années 1800, croit tous les jours, cet homme-là n'ennuie jamais et est la plus parfaite image de la nature, c'est le naturel qui me convient, il ne savait rien, n'apprenons donc pas le grec, il faut sentir et non savoir. En matière d'art, Stendhal le découvre à l'école du théâtre. Il n'y a d'autre propédeutique que celle du plaisir, ce dont il avait d'emblée eu le soupçon, hein, quand il peinait, jeune homme, sur ses arides poétiques et notait quand même dans une marginale, hein, sur les cahiers qu'il noircissait, « Laissez crier les tireurs de règles, étudiez Corneille, et sicitur ad astra ». Merci.